Vous savez que le rêve du prédicateur, c'est que les gens se souviennent de son message. Et déjà le dimanche à midi, c'est un bon commencement. Je suis donc particulièrement touché par le fait qu'au moins deux des responsables besoins se souviennent du message que j'ai donné ici le 27 décembre 2015. J'ai parlé de la visite des mages auprès de l'enfant Jésus et du fait que lui et ses parents ont dû s'enfuir en Égypte pour échapper à un massacre. Le Seigneur des mondes a été un réfugié politique dès sa petite enfance. Ce matin, dans le contexte de la Journée mondiale des réfugiés, le jour officiel, c'est le 20 juin, je vais donc visiter ce thème, un sujet d'actualité, comme vous le savez. Comme bien d'autres, où les chrétiens ne doivent pas hésiter à se démarquer du reste du monde. On le fait pour le mariage, l'identité homme-femme, la vie de l'enfant à naître. Par exemple, ici, ce n'est pas non plus un mal d'être différent à condition de se conformer à la parole de Dieu. Ce n'est pas un mal de changer d'avis si notre attitude n'est pas à l'image de celle du Seigneur Jésus. Le sujet d'aujourd'hui me motive fortement, vous le savez, pas seulement parce que je suis un immigré de la première génération, naturalisé, un binational, pas seulement parce que j'ai été parfois témoin de situations profondément injustes, mais surtout parce que différents textes bibliques m'ont travaillé et m'ont marqué. Il y aurait tout un volet pratique à aborder. Que dit la loi? Que dit la Convention de Genève? Quelles sont les statistiques? Comment réagir face à ce qu'on entend en politique? Quelle est la réalité? Quels sont les fantasmes? Mais pour cela, il faudrait que vous alliez sur un site autorisé. Je vous recommande notamment le site du CNES, qui, pour le jour d'aujourd'hui, a sorti trois documents très intéressants. Mon but ce matin n'est pas d'aborder le volet pratique, c'est d'aborder simplement ce que la Bible en dit. Et je m'adresse ici, c'est beaucoup plus facile pour moi, je m'adresse ici à des gens qui veulent mettre en pratique ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Si là, au moins, notre attitude est juste, le reste suivra. Des migrants et des réfugiés, il y en a une question dans la Bible. J'ai été, moi, un immigrant, mais je n'étais pas un réfugié. Je ne fuyais rien. Abraham a été un immigrant. Il est parti de chez lui, il ne savait pas trop où il allait atterrir. Il a rencontré parfois l'hostilité du pays de Canaan, où il voulait s'installer, mais il ne fuyait rien. Par contre, son petit-fils Jacob et ses arrière-petits-enfants étaient, eux, dans la situation des réfugiés. Ils ont fui la famine pour s'installer en Égypte. Dans un premier temps, ça s'est bien passé pour eux, mais à la longue, les Égyptiens ont fini par dire que les Israélites étaient trop nombreux. Ils les ont réduits à l'esclavage. Ils ont essayé de les éliminer à petite dose, ont tué leurs petits garçons. Et pour finir, les Israélites ont de nouveau fui. Ils ont fui l'Égypte. C'était l'Exode. Un peu plus tard, le livre de Ruth raconte comment une famille israélite a trouvé refuge en Moab. Et le premier livre de Samuel dit que David a envoyé ses parents en Moab pour échapper à la mort des réfugiés politique. Les livres des rois et certains livres prophétiques racontent comment les Judéens ont fui jusqu'en Égypte pour échapper aux invasions assyriennes et babyloniennes. Le prophète Jérémie est mort comme un réfugié en exil en Égypte. Et dans le Nouveau Testament, le thème est un peu moins présent en tant que tel, mais déjà nous avons vu que Jésus a été un réfugié. Et nous pourrions parler de ce qu'il a prédit à propos du siège de Jérusalem quand viendrait la guerre juive, 66-73 au total. En l'an 70, les chrétiens doivent s'enfuir devant l'arrivée des armées romaines et ne pas s'entêter à rester à Jérusalem. On doit aussi parler de réfugiés dans l'histoire récente. Ça fait partie de l'histoire des humains. En 1940, les Français ont dû s'enfuir devant les armées allemandes. En 1945, des millions d'Allemands ont tout quitté pour fuir l'armée rouge qui arrivait par l'Est. Après la guerre, des milliers de Portugais ont traversé la frontière illégalement pour fuir la pauvreté et s'installer dans nos régions, vous le savez. Les Vietnamiens et les Cambodgiens ont fui des massacres épouvantables. Ce sont peut-être vos amis, vos voisins, vos collègues. Et maintenant, ce sont des Africains qui fuient la pauvreté, la famine et la guerre. Ce sont des Irakiens et des Syriens qui fuient la guerre et, pour les chrétiens, la persécution en plus. Ce sont des Afghans, des Tchétchènes, certains chrétiens algériens et bien d'autres. Ils viennent en Europe et en France, non de leur plein gré, mais parce que la misère, la persécution et la guerre les poussent à tout quitter. Pourquoi est-ce que je vous cite tout cela? C'est pour donner du relief à un verset biblique majeur. Je vais le citer maintenant. Il va s'afficher. Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étrangers en Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Quand une famille juive célèbre la Pâque, le plus jeune demande toujours en quoi ce soir se distingue-t-il des autres soirs? Et il y a quatre réponses traditionnelles qui portent sur le repas lui-même, qui est différent des autres repas. Et ensuite, tous proclament ceci. Nous avons été esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel, notre Dieu, nous a fait sortir de ce pays par sa main puissante et son bras étendu. C'est en 2017 que l'on dit « nous étions esclaves de Pharaon en Égypte ». Nous. Il y a peut-être ici des descendants de Negmaron. Il y a peut-être ici des pieds noirs chassés d'Algérie. Nos parents ou nos grands-parents étaient peut-être des Espagnols fuyant le régime de Franco, ou des Arméniens voulant échapper aux Turcs. Nous autres protestants français, nous avons échappé aux troupes de Louis XIV et nous avons trouvé refuge en Suisse, en Allemagne et en Angleterre. Nous aussi, nous étions des réfugiés. Nous aussi, nous chrétiens, héritiers du peuple juif, nous étions esclaves en Égypte et nous sommes donc solidaires de ceux qui fuient, car leur histoire est la nôtre. Vous aussi, vous aimerez l'étranger parmi vous, car vous avez été étranger en Égypte. Souviens-toi d'où tu viens. Se souvenir d'où on vient, ça pousse à l'amour. Je dis bien l'amour, c'est dans le texte que nous avons cité. Tu l'aimeras comme toi-même. Et dans le livre de la loi de Moïse, il y a toute une liste de textes semblables qui disent la même chose, Philippe a cité Deutéronome. Il y a un texte qui me fait penser au Underground Railroad, en anglais dans le texte. Est-ce qu'il y en a ici qui savent ce que c'est, Richard? Peut-être. Charmaine, peut-être. Voilà. Bravo à Richard, il connaît son histoire. Le Underground Railway, c'est-à-dire le chemin de fer souterrain, c'était une filière d'évasion qui aidait les esclaves noirs du sud des États-Unis à gagner les États non l'Est du Nord, le chemin de fer souterrain. Honneur à ceux qui ont travaillé sur ce chemin de fer-là. Ça m'a fait penser donc à l'un de ces textes du Deutéronome qui va maintenant s'afficher et qui est également très frappant en Deutéronome 23. Si un esclave s'enfuit de chez son maître et vient se réfugier dans votre pays, vous ne le ramènerez pas à son maître. Il pourra demeurer parmi vous dans votre pays, à l'endroit qui lui plaira dans l'une de vos villes et où il se trouvera bien. Vous ne l'exploiterez pas. Et ça, mes amis, c'est le contraire de toute législation sur les esclaves dans l'histoire du monde. Chez les Romains, comme dans le sud des États-Unis, comme dans la loi française d'autrefois. C'est le contraire de nombreux discours actuels. Il est vrai que l'étranger peut représenter une menace. Je pourrais aussi vous citer des textes bibliques dans ce sens. Mais il est surtout vrai que l'étranger peut bénéficier de la promesse faite à Abraham en qui toutes les familles de la terre seront bénies. Et surtout, c'est le thème majeur qui me frappe dans ces textes. L'étranger, comme l'orphelin et la veuve, est quelqu'un de vulnérable que le peuple de Dieu doit protéger. Après les guerres de Canaan, l'étranger égale menace. Après les guerres de Canaan, le peuple de Dieu d'autrefois se devait de protéger les vulnérables, les orphelins, les veuves et les étrangers. Et je trouve exactement la même pensée dans l'enseignement du Seigneur Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme Dieu est généreux envers nous, nous devons aimer non seulement ceux qui nous ressemblent, mais les pécheurs notoires, les lépreux, les exclus, les affreux samaritains et même nos ennemis. Voici ce que Jésus dit. Dans le serment sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste. Car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons. Et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Soyons tout à fait clairs, ce n'est pas la loi de Dieu qui dit de haïr ses ennemis. Je l'ai lu dans un texte ancien, dans les documents de Qumran. C'était le point de vue traditionnel du temps de Jésus. Mais Jésus, lui, ne pose pas de limite à la notion de prochain. Tu aimeras ton prochain, point. Pas de limite. Je vais vous faire, est-ce que c'est un aveu? Est-ce un témoignage? Je ne sais pas si je vous en tirerai gloire ou plutôt qu'on avoir honte. Mais je vais vous dire comment certaines choses se sont passées par moi, pour moi, après avoir essayé de conseiller un Pakistanais débouté du droit d'asile. Il ne pouvait pas prouver qu'il avait milité pour les droits des femmes, il ne pouvait pas prouver qu'il était menacé, et donc il avait épuisé les recours, il est venu nous voir, et effectivement, je ne voyais vraiment pas ce qu'il pouvait faire pour arranger sa situation. Mais après coup, le fait d'avoir été au contact de cet homme, comme avec d'autres, m'a fait poser une question sérieuse. Est-ce que je vais continuer à aider des personnes dont la culture musulmane va forcément changer le visage d'un quartier ou d'une ville en France? Je vais continuer ou discrètement je devrais orienter un petit peu l'aide que j'apporte. Et un matin, ça ne me travaillait pas plus que ça, mais ça surgissait de temps en temps, à l'improviste, à l'insu de mon plein gré, Dieu m'a parlé dans l'évangile de Luc, où Jésus dit, « Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. » Il y a bien des années, j'ai du boulevard de la Liberté à Rennes. Et ce même verset, ou son équivalent en Matthieu, m'est venu à l'esprit, a complètement bouleversé le regard que je portais sur nos relations avec les catholiques. Faites pour les autres ce que vous vouliez qu'ils fassent pour vous. Et voilà donc, ce matin, je pense que j'étais sur le canapé, ce même verset s'est imposé de nouveau à moi avec une force incroyable. Je n'avais pas à me demander comment les autres sont avec moi. Je devais me soucier, moi, de mon attitude vis-à-vis d'eux, et je devais me soucier de mes actes. Jésus-Christ me l'ordonne, je n'avais pas le choix. Et je me suis incliné, je suis déterminé à obéir. Maintenant, comment faire face à tant de besoins? Nous vivons aujourd'hui, en notre temps, une difficulté que ne connaissaient pas les croyants des temps bibliques. Eux devaient avoir une attitude juste et bienveillante vis-à-vis de la personne vulnérable qui se trouvait devant eux. Mais de nos jours, nous sommes instamment au courant de catastrophes aux quatre coins de la planète. Et personne ne peut s'informer de tout, encore moins donner pour tout, ou intervenir personnellement pour tout. Comment est-ce qu'on peut faire en toute loyauté? Et là, je vous soumets, je vous propose deux approches complémentaires. La première approche consiste à dire que certaines situations sont devant nous immédiatement. C'est la parabole du bon samaritain. Vous vous souvenez de cette parabole? Souvenez-vous de ce qui s'est passé il n'y a pas tellement longtemps en France. Tout le monde réclamait le démantèlement de la jungle de Calais et d'autres sites semblables. Mais quand il était question d'accueillir les personnes déplacées à Porto-Combo et à Roissy-en-Brie, certains se sont mobilisés pour protester à fond, on n'en veut pas. Et d'autres se sont mobilisés pour apporter vêtements, jouets et surtout un brin d'humanité. De quel bord, mes amis, étions-nous? J'estime que la France peut faire plus. Nous sommes 15 fois moins généreux que les Suédois en matière du droit d'asile. Les Suédois. Et nous sommes le 5e ou le 6e pays du monde. Nous pouvons faire plus et je pense que les chrétiens doivent faire plus. Je dois faire plus. Première approche, il y a des situations devant nous. Nous ne pouvons pas rester les bras ballants. Deuxième approche qui vient compléter, je pense qu'il faut vraiment les deux, c'est ce que j'appelle l'approche des cercles concentriques. Quand j'étais gamin, j'aimais bien jeter des cailloux dans l'étang qui se trouve en centre-ville, vous allez le dire, en centre-ville de Chesterhurst. Bravo pour vous. Et bien sûr, les vaguelettes se répandaient à partir de mon caillou que je jetais. Et bien sûr, les vaguelettes s'aplatissent au fur et à mesure et s'affaiblissent. Il y a dans nos responsabilités des cercles concentriques. Et le premier cercle, c'est notre propre famille. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, dit la Bible, il est pire que l'infidèle. Premier cercle, notre propre famille. Deuxième cercle, nous sommes concernés par le sort de nos frères et sœurs en Christ. Et là, je cite Paul aux Galates, « Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Au nombre de réfugiés actuels sont nos frères dans la foi, quelle que soit la forme de leur culte. Et pour certains, ce n'est pas juste la guerre ou la famine qui les fait partir, parce qu'ils sont pourchassés pour le nom de Jésus-Christ. Pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. C'est le deuxième cercle. Mais il y a aussi le troisième cercle. Dans ce verset qui s'affiche, Paul dit de pratiquer le bien envers tous. Et c'est ce que l'Église d'Osoir fait. Nous sommes tous frères et sœurs en Adam. Et donc, nous sommes tous concernés par les malheurs des humains. Nous devons être généreux envers tous, comme Dieu savez, nous sommes dans un monde où les gens se déplacent beaucoup et ce n'est pas nouveau. Vous avez peut-être vu le film « Il a déjà tes yeux ». Combien l'ont vu? Ah, c'est un grand temps. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut vraiment le coup. Vous allez bien vous marrer. Mais il y a un truc très touchant vers le milieu ou vers les deux tiers du film. L'histoire, donc, c'est l'histoire d'un couple noir, des Maliens, des Sénégalais, il me semble. Et ils adoptent un petit blond. Et en plus, il est blond. C'est vraiment une petite tête blonde, pour de vrai. Et les parents de la jeune femme en particulier, ils sont outrés. Ça ne se fait pas. C'est contre nature. Et la jeune sœur cadette, culture africaine oblige, raisonne, mais alors extrêmement respectueusement avec son papa, un vieil homme sec, maigre, ancien ouvrier, habitant au sixième étage d'une tour, ancien ouvrier sur les chantiers, et a dit, mais papa, quand t'es venu en France clandestinement, quand t'as travaillé au noir, quand tu as fini par avoir un HLM et que tu habites au sixième étage, c'était pas contre nature, ça. Ces mouvements, papa, c'est irréversible. Et c'est le tournant du film. Nous sommes devant des choses et nous ne pouvons pas faire marcher la pendule à l'envers. Il faut faire avec. Et il y a un devoir pour les chrétiens de témoignage. Il y a pour le chrétien un devoir d'amour. Nous sommes solidaires en Christ. Nous sommes solidaires en Adam. Combien j'aurais aimé avoir 2 heures de plus avec vous pour parler de choses plus compliquées. Mais j'ai voulu me limiter à ce qu'on peut retirer directement de la parole de Dieu. À vous maintenant de vous renseigner peut-être davantage, de vous faire une opinion sur tel ou tel problème réel, pratique. Mais mon but ce matin, c'était de nous placer devant Dieu et devant sa parole. Nous sondons notre cœur. Et nous nous disons que Jésus-Christ s'est donné pour nous alors que nous étions étrangers, la Bible dit. Il s'est donné pour nous alors que nous étions étrangers, loin de Dieu, ennemis de Dieu. Et donc, si nous, nous sommes les disciples de ce Sauveur-là, nous aussi, nous devons nous donner pour des étrangers, pour ceux qui sont différents, pour ceux-mêmes qui sont nos ennemis. Nous n'avons pas le choix. Je vous invite à un moment de prière, silencieuse d'abord. Vous voulez vous présenter devant Dieu. Je ne sais pas comment, ce que vous auriez à lui dire. Vous pouvez le remercier pour la beauté de sa parole. Vous pouvez repentir d'attitude mauvaise. Vous pouvez vous engager. Vous pouvez lui demander de vous éclairer. C'est probablement le cas de plusieurs. Et je vous invite à vous placer devant Dieu. Et ensuite, je terminerai par 2 diapositives. Seigneur, ma prière pour moi-même et pour mes frères et sœurs ici, c'est que tu nous aides à avoir des attitudes justes. Et en partant de là, à savoir comment agir dans le concret. Nous ne savons pas ce que nous ferions si nous étions en position d'autorité, comme un préfet, comme un ministre de l'Intérieur, comme un premier ministre, comme un président. Nous prions pour nos autorités, pour qu'ils œuvrent en faveur de ce qui est vrai et juste, qu'ils œuvrent en faveur de la paix, qu'ils s'inspirent de la fraternité qui est affichée à la mairie. Nous voulons prier, Seigneur, pour ceux qui sont dans cette détresse extrême, d'une manière ou d'une autre, tu peux te révéler à eux. Et nous te remercions pour tous, chrétiens ou pas, qui œuvre en vue de la justice et de l'humanisme. Je prie, Seigneur, de nous conduire et de nous aider à être différents quand il le faut. Au nom de Jésus. Amen. Je vous laisse. presque avec deux diapos, les deux dernières. Ils sont là ou pas? Oui, après la page noire, il y a donc deux mots d'ordre. J'ai choisi un mot d'ordre pour l'Église, pour notre vie, en quelque sorte, en interne. Accueillez-vous les uns les autres, tout comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Bon, c'est pas grave si l'accent l'a perdu. C'est dans la Bible, vous le retrouverez dans Romains 15. Accueillez-vous les uns les autres. Et alors, pour notre action dans le monde, le mot d'ordre ne peut être que celui-ci. Tu verras ton prochain comme toi-même. Je vais vous montrer quatre sites possibles où vous pouvez prolonger votre réflexion. La mienne, vous aurez quelques messages sur ce thème et vous aurez une heure et demie de séminaire avec les sujets sur les aspects pratiques. Vous pouvez aller sur le site du CNEF pour les trois textes qui sont excellents. Et si vous voulez des sites plus militants, si je puis dire, vous pouvez aller sur le site de la CIMAD ou de RSF. Merci beaucoup.